Morning Business, le grand débat.
Il est 8h38 et nous sommes avec Arnaud Aimé, associé chez Sia Partner, François Jollet, président de Montségur Finance, et Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well. Bonjour à tous les trois. On va évidemment parler d'automobile parce que déjà quand même Tesla qui publie hier, il y en a qui font la fine bouche, Arnaud, mais enfin 12,5 milliards de dollars de bénéfices nets, 1,3 million de véhicules. Renault en fait 1,4, hein. La petite start-up d'Elon Musk en train de devenir un gros constructeur automobile. C'est pas mal ces résultats quand même, non?
Alors, tout à fait, mais je ne fais pas partie de ceux qui font la fine bouche. C'est des résultats qui restent tout à fait exceptionnels. Comme vous dites, Tesla est complètement dans la cour des grands. Maintenant, pas seulement en termes de volume d'affaires et de bénéfices et de technologie, mais aussi en termes de volume. Il y a 2-3 ans, on disait Tesla, c'est quelques centaines de milliers de véhicules. Est-ce qu'ils arriveront à industrialiser? Aujourd'hui, ils ont réussi à industrialiser. Ouais. Ils sont rentrés un peu dans les majors hein, en termes de volume. 1,3 million de véhicules l'année dernière. Ils en prévoient 1,8 million cette année. Donc l'industrialisation se poursuit. Les marges se sont. Alors, elles sont un peu érodées.
Oui, parce que c'est ça, la fine bouche, c'est la question des marges.
Oui, mais c'est normal, quand vous faites du volume, vous acceptez que les marges sont un peu plus faibles quand même.
Pas nécessairement. Ouais, bah. Les marges ont pas. Enfin, depuis les débuts de Tesla, les marges n'avaient pas particulièrement baissé. Si les marges baissent un peu aujourd'hui, enfin, elles sont quand même très honorables. Là, on a 25% de marge brute, ce qui est plutôt dans le haut de la fourchette pour les constructeurs automobiles. C'est que sur certains marchés, ils baissent les prix. Je pense notamment en Chine. Qui est un marché très important pour Tesla et dans une moindre mesure en Europe, parce que la concurrence s'est réveillée en Occident par les constructeurs occidentaux qui se lancent aussi dans l'électrique, on parlera peut-être de Renault, et puis en Chine par des constructeurs très récents qui se sont développés directement sur l'électrique sans passer par la case thermique, donc un effet un peu saut de mouton. En Chine, c'est notamment BYD,
qui a annoncé hier qu'ils achèteraient peut-être l'usine Ford en Allemagne. Donc, porte d'entrée aussi gigantesque.
François Chollet, le titre Tesla a quand même beaucoup baissé. Quand on entend l'analyse d'Arnaud Aimé, on y retourne.
Oui, alors, ça a baissé parce qu'on
était très valorisé.
Les valorisations qui étaient un peu stupides.
Ouais, 1000 milliards.
Hein. Ouais. On est à 500 milliards aujourd'hui. Bon. 13 milliards, si on fait une division, ça donne quand même des multiples exigeants. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir un peu de visibilité. Et c'est un peu la clé de 2023 pour Tesla. On a une bonne visibilité sur les volume, a priori, il devrait faire 1,8 million véhicules, en tout cas en capacité. Le marché attend un peu plus, en vérité. Hein. C'est plutôt autour de 2 millions de véhicules que le marché se cale. La vraie question, c'est sur la capacité à maintenir des marges, et vous en parliez, sur le côté premium de Tesla, puisque la concurrence a fourbi ses armes, et parfois même d'une manière qu'on n'attendait pas forcément. Tesla est très réputé, par exemple, sur ses systèmes de pilotage automatique des véhicules. Mmh. La conduite autonome, aujourd'hui, les panels d'utilisateurs qui ont été testés aux États-Unis mettent Tesla en 7e position.
Donc on a appris que Elon Musk avait un peu triché hein, sur le système, sur les tests et sur. C'est grave comme accusation.
Il y a des enquêtes aux États-Unis qui entourent le dossier et qui peuvent parfois inquiéter un peu sur Tesla. Je pense notamment à ce qui s'est passé avec la SEC et Elon Musk qui en a les rênes il y a maintenant 2 ans, mais c'est en train d'arriver maintenant dans les tribunaux. Tout ça pour dire que c'est la visibilité sur la marge, un des points clés. Ce qui est intéressant dans cette publication, c'est effectivement que le modèle a réussi à trouver preneur avec des marges encore assez confortables, malgré des effets de change un peu défavorables. La grosse faiblesse l'année dernière de l'euro et la faiblesse actuelle en ce moment du dollar depuis le début de l'année, ça a impacté au dernier trimestre significativement aussi les marges. Les baisses de prix, vous en avez parlé.
Il a parlé des taux aussi.
Les taux d'intérêt, parce que les véhicules sont vendus à crédit. Ouais, et donc, quand vous avez des taux d'intérêt qui montent significativement, et bien forcément, vous avez des pouvoirs de négociation et de marge qui se diminuent.
Raphaël Bloch.
Oui, alors je parle sous votre contrôle, hein, mais ce que je trouve intéressant sur Tesla, c'est que finalement, bon, ils ont réussi à bien se développer dans les centres urbains. Enfin, ils ont réussi à séduire des foyers et des
clientèles aisées.
Voilà, une clientèle plutôt aisée. Et c'est vrai que peut-être que pour eux, le défi, ça va finalement être d'être capable d'attirer une classe peut-être un peu plus moyenne. Mmh. En fait, le mass market, alors je ne sais pas où ils vont aller le chercher. Est-ce que c'est en Chine? Est-ce qu'en Europe, ils vont réussir en baissant les prix à atteindre, atteindre cette population? Je pense qu'il faudra qu'on le voit. Et puis, deuxième chose, c'est quand même, on a beaucoup parlé d'Elon Musk.
Oui, ce que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas le problème de Tesla aujourd'hui? C'est parce que ce n'est pas Elon Musk quand même.
Bah, justement, c'est ce qu'on se demandait. C'est-à-dire que, est-ce que ses activités en parallèle, le fait qu'il ait racheté Twitter, est-ce que ça avait peut-être perturbé l'entreprise?
Et puis, ça a dégradé l'image de Tesla. Avoir une Tesla en Californie, c'est mal vu maintenant.
Mais mine de rien, on voit que les ventes continuent d'augmenter, que l'entreprise va plutôt bien. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'ils s'en sortent toujours très bien.
Arnaud.
À voir si en Californie, avoir un véhicule chinois, c'est mieux vu qu'avoir une Tesla.
Il y a beaucoup de Tesla qui sont remis sur le marché d'occasion en Californie. Hein.
Tout à fait, mais quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console.
C'est pas le même segment, hein, BYD quand même. Hein.
C'est pas le même segment, effectivement. BYD est sensiblement plus compétitif. En termes de volume, BYD atteint, voire dépasse Tesla au niveau mondial grâce au poids sur le marché chinois. Mais BYD considère pas seulement les véhicules 100% électriques, mais aussi les véhicules électrifiés, c'est-à-dire les hybrides. Donc Tesla a encore de l'avance là-dessus aujourd'hui.
Bon, on va parler de Renault-Nissan.
Oui,
on vient de comparer. Renault-Nissan qui négocie tant bien que mal. Alors, c'est pas un divorce, mais c'est quand même une séparation de biens. Chacun va reprendre un peu ses billes. En plus, sur la filiale d'avenir, Ampère, on voit qu'il n'y aura pas d'accord aujourd'hui sur le niveau de la participation du japonais dans la future filiale électrique. Est-ce que Renault, 1,4 million de véhicules vendus pour Renault, 2 millions si on rajoute évidemment les autres marques du groupe, est-ce que Renault a un avenir?
Alors, moi, j'en suis convaincu.
Bon, bah non, mais
pour le coup, on part d'une situation il y a 2-3 ans qui était catastrophique pour Renault. Et on pouvait se poser la question, effectivement, il y a 3 ans, après l'arrestation de Carlos Ghosn, après des pertes qui avaient été monumentales, qui se comptaient en milliards d'euros, et c'était un record à l'époque. Depuis, ça a quand même pas mal rebondi, me semble-t-il. Alors, c'est sûr que... moi, la route me semble droite, mais la pente est forte, effectivement. Bah ouais. Sur Nissan, l'alliance avec Nissan, ça se décante quand même. Tout n'est pas terminé, notamment la participation de Nissan dans Ampère, qui est l'activité pure électrique de Renault. Mais c'est pas un refus de Nissan, c'est juste que c'est pas encore fait pour le coup. Mais ça peut être quand même assez attractif pour
c'est
Nissan.
C'est mauvais signe quand même. Ils n'est pas arrivé à dealer tout en même temps. Mais bon, ça c'est.
Bah, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Bon. Pour le coup, ils ont quand même. Enfin, le fait que les participations croisées soient éclaircies.
Il faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Hein. Mais voilà.
On est bien d'accord.
Mais quand même, on a l'impression que l'horizon est un peu plus clair quand même pour Renault, François Chollet.
Oui, alors on n'est pas du tout sur le même univers de valorisation que Tesla, en termes de multiples, donc les exigences ne sont pas du tout identiques. On peut se rassurer là-dessus. Il n'empêche, le titre se porte bien depuis quelques mois maintenant, a tendance à surperformer un petit peu le secteur, et ça témoigne simplement du fait que la confiance est en train de revenir sur la capacité du groupe au travers de son électrification avec
Ampère
à conquérir ou maintenir une certaine part de marché dans l'électrique. Ouais. On pouvait s'inquiéter à l'époque de la Zoé face à l'arrivée de véhicules qui étaient bien plus premium. On parlait de Tesla qui, lui, à l'inverse, doit se démocratiser et baisser ses prix et trouver de nouvelles plateformes pour arriver à encore baisser son... point d'accessibilité à l'électrification. Dans le cas de Renault, c'était pas le cas. C'est plutôt l'inverse. Il fallait trouver de la valeur ajoutée en électrique. Certains partenariats ont permis de le faire. Je pense à celui avec Google qui fait que Renault aujourd'hui est partie des véhicules connectés.
Non, mais c'est sûr que la stratégie de Luca de Meo, elle est impressionnante. Elle plaît aux investisseurs. Mais c'est juste que quand on a 2 millions.
Et aux collaborateurs en interne.
Ouais, c'est vrai. Non, mais super. Mais après, quand on a 2 millions de véhicules face aux géants qu'on en 10, il y a le problème de l'effet d'échelle. On se dit, est-ce que Renault, effectivement...
L'échelle ne fait pas tout. Souvenez-vous que Carlos Ghosn, quand il perd les commandes de Renault, il est le premier constructeur automobile en nombre de véhicules vendus au monde.
Et puis pour la...
Enfin, bon, voilà, il y a des gros Renault autour de la table. Tant
des
mieux,
alliances
tant mieux.
Avec Nissan pour faire des plateformes communes. Ça, pour l'instant, c'est sauvegardé. Et même, c'est amplifié par rapport où il y avait la grande alliance. Mais concrètement, les synergies étaient très limitées. Elles ont l'air de s'amplifier aujourd'hui.
Raphaël, vous êtes dans la team convaincue de l'avenir de Renault?
C'est compliqué. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'on part de très loin. Il y a quelques années, Renault était vraiment en difficulté. Ce qui est intéressant, enfin moi ce qui effectivement me séduit dans ce qu'ils font, c'est de pousser les feux sur tout ce qui est l'électrique. On sait très bien que leur avenir passe en partie par l'électrique. Et donc, on verra ce que ça va donner avec leurs nouvelles alliances. Mais peut-être de clarifier les choses avec Nissan va leur permettre de pouvoir se projeter plus facilement.
Ça arrête de pourrir déjà les discussions en interne, permet de se focaliser sur l'essentiel. On parle beaucoup de l'électrique, mais le low cost, c'est important aussi. Le thermique, c'est encore important. Ouais. Il faut qu'on parle de Dacia, donc au sein du groupe Renault, qui pour le coup a des performances remarquables. Ils ont perdu beaucoup de volume l'année dernière en se coupant le marché russe, sur lequel Dacia était très présent. C'était le deuxième marché pour le groupe Renault à l'époque, d'où des dépréciations, mais ce n'était pas non plus des pertes de cash. Dacia est en très bonne position, pas seulement dans les pays émergents, mais en Europe et même en France. Donc ça aussi, c'est très prometteur.
Mais à vous entendre, on a l'impression que Nissan a le plus à perdre.
Non, je ne me prononçais pas plus que ça sur Nissan. Je pense que Nissan aussi a gagné. Ils mutualisent et ils utilisent certaines plateformes de Renault et de Dacia pour des modèles. Et Nissan, ils sont plus grands, ils sont plutôt de l'ordre de 3 millions de véhicules par an. Mais eux aussi ont besoin de partager de la technologie avec Renault. Et puis Mitsubishi, dont on ne parle pas souvent, qui s'appuie beaucoup sur Renault pour se faire distribuer en Europe.
Bon, un mot peut-être de la tech américaine qui... alors Tesla, on a vu les résultats, c'était pas si mal. Enfin, on a eu les résultats de Microsoft cette semaine, c'était un peu difficile. On a des licenciements massifs qui sont annoncés. Alors, suite à une vague de recrutement qui avait été colossale, hein, 40 000 en 3 ans chez Microsoft, ils licencient 12 000 personnes. Comment faut regarder ça, François Jollet ? Ça se simplifie, ça se normalise, ou il y a vraiment un problème sur les ventes futures, par exemple sur Microsoft, on peut s'interroger.
Alors, de point de vue business, les publications qu'on voit sont très bonnes sur les chiffres d'affaires. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'activité est là.
Sauf que Microsoft, ils ont quand même perdu 37% sur Windows, ils ont perdu sur les tablettes et les surfaces.
La vérité, c'est que les chiffres de Microsoft ne sont pas bons sur ces activités-là, on est d'accord. Ouais, ouais. En revanche,
le cloud, ça monte.
Les clouds, sont la locomotive actuelle du groupe. Ouais, ouais. Et pour longtemps, puisque très sincèrement, les marges sont très élevées, et c'est des modèles qui ont basculé d'un modèle du paiement à l'achat à un modèle d'abonnement récurrent. Donc c'est extrêmement favorable pour les investisseurs. Et d'ailleurs, le titre n'a pas vraiment souffert.
Il a souffert un peu 4%, puis il est remonté après.
Oui, ça s'est effacé très vite dans la séance qui a suivi. Donc on a de très bons chiffres de business. On a des inquiétudes sur les marges. Et en fait, ça va être un peu le mojo de 2023, parce qu'on n'attend pas vraiment à ce qu'il y ait des grosses difficultés sur l'activité en tant que telle. En revanche, sur la capacité des entreprises à maintenir un pricing power, des marges, dans des contextes d'approvisionnement, vous en parliez ce matin, un peu plus difficile, dans des contextes de forte volatilité des matières premières.
De hausse des salaires.
On a cette équation-là qui est un peu plus compliquée. Et on la voit un peu partout, en fait. Les équations de parité de change aussi. Ça a été extrêmement très significatif en Europe. 2022, une bonne partie des profits européens, c'est de la transformation en euros de profits réalisés en dollars dans des conditions qui sont très favorables. C'est en train de se retourner un petit peu. Mais on voit que ces éléments-là sont des grandes lignes dans les premières publications et dans les premières guidances qui sont données par l'entreprise 2023. Et je crois que ce sera une des clés, parce que la vérité, c'est qu'une grande récession à ce stade, elle n'est pas anticipée par le marché, ni même par les banques centrales.
Raphaël.
Alors effectivement, il n'y aura peut-être pas de grande récession, mais on sent bien que les entreprises se préparent quand même une année 2023 assez compliqué. Et c'est vrai que après 2 ans où ils ont embauché avec des profits records, là ils se disent maintenons nos marges et organisons-nous pour effectivement traverser 2023 sans trop de difficultés. Et on l'a vu dans la tech, toutes les entreprises réduisent la voilure. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas le cas dans tous les secteurs. Il y a quand même, on en parlait la semaine dernière, quand on voit des LVMH, la trajectoire n'est pas exactement la même, elle est plus linéaire.
Alors on va parler de l'anomalie de l'économie, c'est quand même le marché de l'emploi. On a eu les chiffres du T4 hier en France, plus de 120 000 chômeurs de moins, 320 000 sur l'année 2022. Alors évidemment, on s'en réjouit. Après, on ne comprend pas, parce qu'il y a un ralentissement économique, il y a des tensions de l'emploi partout, sur tous les marchés, sur tous les continents. Comment vous l'expliquez, François, vous ?
Alors, on a sans doute des effets liés à cette activité. On parlait du fait que les entreprises étaient en croissance de chiffre d'affaires. Donc, les inquiétudes, je précise, c'était bien les marges, non pas l'activité. Et donc, quand vous avez des croissances de chiffre d'affaires, vous êtes en train de chercher des personnes pour le réaliser. Le contexte d'emploi est un contexte qui est assez étonnamment symétrique en Europe, aux États-Unis, à peu près partout. Et les dirigeants d'entreprises qu'on rencontre nous parlent de ça comme une des premières préoccupations de leur activité aujourd'hui. C'est-à-dire attirer les talents, mettre en œuvre des politiques de recrutement performantes. Donc c'est un vrai sujet. Et les problématiques d'inflation qu'on connaît et qui sont encore assez prégnantes en Europe sont des sujets clés dans cette partie-là. Et quels que soient, je crois, les métiers aujourd'hui, on peut assister à ces tensions.
Je pense qu'il y a aussi un autre effet dans les pays occidentaux et en Chine également, c'est que c'est l'évolution de la population des actifs. On est dans une démographie où le nombre d'actifs n'est plus en croissance.
Vous arrivez à la réforme des retraites, c'est ça? Alors,
je ne voulais pas faire le lien avec une situation spécifiquement française, mais bon, ça y contribue aussi. On a une population d'actifs qui n'est plus en croissance, mais plutôt en décroissance. Donc ça rajoute quand même des tensions sur le marché de l'emploi. Les entreprises en souffrent. Et juste pour faire le lien entre ce sujet de ressources et le sujet tech, dans les acteurs de la tech, il y a aussi des acteurs plutôt sur du hardware. C'est aussi des puces électroniques, du semi-conducteur. Et ceux des acteurs tech, et là je voulais faire le cocorico avec STMicroelectronics, qui peuvent parfois profiter des pénuries de semi-conducteurs pour les vendre plus cher. Un STMicro acteur tech, lui, a des revenus et des marges qui augmentent très fortement pour le coup. Donc entre la partie software et la partie hardware, il y a quand même des différences aussi.
Raphaël. Effectivement, je pense que la dimension démographique, on sait très bien que là, une partie des baby-boomers partent à la retraite, donc naturellement en fait, on va avoir de moins en moins de personnes sur le marché du travail, et puis effectivement, il y a toujours cette tension avec des entreprises qui recrutent. Donc finalement, voilà, le taux de chômage diminue, ce qui est une bonne chose. Après, il y a quand même aussi de plus en plus d'auto-entrepreneurs, enfin, je veux dire, des métiers davantage précaires. Et donc, voilà, vous avez un statut qui ne correspond pas forcément à un poste en CDI dans une entreprise. Donc il faut aussi quand même regarder tout ce halo de précarité.
François ?
Oui, on est dans une période où on arrive dans les publications de retail entreprises, ça va être assez massif. On parlait de STMicro, il y a SAP qui publie ce matin, on a LVMH aujourd'hui. Ouais. On arrive dans une semaine extrêmement chargée sur les marchés. Il n'y a pas de très mauvaise nouvelle à attendre. Ouais. Clairement, on va avoir plutôt des bonnes publications, et ce qui démarre là est en train de publication très favorable. C'est d'ailleurs ce qui permet au marché d'être sur des niveaux aussi proches des sommets précédant la crise de l'année dernière.
Tout va bien en fait.
Surtout en regardant dans le rétroviseur.
Quand on regarde dans le rétroviseur et le dernier trimestre 2022, c'est certain qu'on va avoir...
Non, mais des marges s'effritent un peu, mais en fait,
oui,
et tout va bien.
La vraie question, c'est qu'on a une érosion donc des anticipations de résultats, notamment aux États-Unis, puisque cette érosion commence à se matérialiser dans les anticipations des analystes pour 2023. On parle d'à peu près 15% d'érosion par rapport à ce qu'on avait il y a quelques mois. C'est encore très raisonnable, et donc... on a des multiples de marché qui restent élevés, 17 fois les résultats aux États-Unis. En Europe, on est plutôt sur la moyenne historique des multiples. Si on a de très bonnes publications, ça peut effectivement libérer quelques niveaux de résistance qu'on connaît aujourd'hui, puisque on a fait 3 semaines de hausse magnifique depuis le début de l'année, mais on a le sentiment que ça plafonne un petit peu. Peut-être que ces publications seront de nature à nous aider à passer.
En tout cas, on a bien compris qu'on va regarder les marges hein, au cours des prochains mois, avec vous, François Cholet, Arnaud Aimé, Raphaël Bloch. Merci d'avoir été avec nous dans ce grand débat.